Historiquement vôtre, c'est, vous le savez, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et dans notre quotidien, mon cher David Castello-Lopez, il y a indéniablement le frigo.
Oui, le frigo, complètement. J'ai mis un certain temps à comprendre que j'étais une personne obsessionnelle.
On a compris plus vite que toi.
Voilà, pas obsessionnel, genre mais moi je suis grave obsessionnel, quoi. J'adore les frigos. Non, pathologiquement obsessionnel. C'est-à-dire, en fait, j'ai des tocs qui se manifestent, par exemple, sous la forme d'un besoin de connaître en permanence les dates de péremption de tous les produits qu'il y a dans mon frigidaire. À l'heure où je vous parle. Par exemple, oui. Et je vous jure que je suis pas allé regarder, je sais que j'ai des yaourts Activia, hein, périmés depuis le 29 décembre. J'ai aussi du beurre à consommer.
Et pourquoi vous les gardez?
Vous êtes obsessionnel, alors sinon ils seraient déjà à la poubelle.
Ah non, mais c'est une obsession qui est de connaître la date de péremption, pas de tout ça.
Vous les laissez?
Et je les...
Non, mais
je
vous savez que les yaourts,
toujours.
Vous pouvez les manger mais bien voilà, après la date
exactement.
De péremption. Il n'y a aucun problème.
Ah, exactement. Alors, c'est pas, tout ça, c'est pas des informations qui prennent énormément de place dans ma tête, mais elles sont là, en toile de fond, de façon permanente, et c'est comme une sorte de petit stress. Vous voyez, tout ça pour dire que le réfrigérateur, pour moi, c'est pas qu'une machine à faire refroidir les choses, c'est aussi un compagnon de névrose. J'ai donc nécessairement eu envie de connaître ses origines. Bon, alors avant tout, je vais parler des bactéries. Les bactéries, hein, et c'est pas vous qui direz le contraire, Mathieu, ce sont des petits êtres fourbes qui nous rendent la vie très difficile. Je sais pas pourquoi je vous ai choisi,
non,
vous,
sais pas,
plutôt que quelqu'un d'autre, ni votre rapport particulier avec les bactéries, mais c'est pas grave. Ces bactéries, elles ne se sentent bien, si vous voulez, que si la température leur convient. Et la température qui leur convient, c'est entre 4 degrés et 60 degrés. C'est là qu'elles se sentent bien. Et c'est ça qu'on appelle, en sécurité alimentaire, la zone de danger. Au-delà de 60 degrés, les bactéries, elles commencent à mourir. Et en dessous de 4 degrés, elles sont un peu léthargiques. Donc, si vous voulez conserver vos aliments correctement, il faut que votre nourriture soit stockée soit au-delà de 60 degrés, soit en dessous de 4. Bon, le truc, c'est que au-delà de 60 degrés, vos aliments, ils continuent à cuire, ils sont au moins bien. Donc la meilleure option, c'est quand même de stocker la nourriture à basse température. Sauf que créer du froid, c'est pas facile. Longtemps, la seule option, c'était la glace. Oui. On prélevait la glace là où la nature l'avait formée et on transportait cette glace dans des endroits où on en avait besoin pour refroidir des trucs. On pouvait la conserver un certain temps dans des copeaux de bois, vous voyez. Et il y a pu avoir comme ça, pendant une bonne partie du 19e siècle, un commerce mondial de la glace. En France, on importait de la glace de Norvège. À Cuba, on importait de la glace de la Nouvelle-Angleterre.
Mais comment elle fondait pas pendant le voyage?
Et ben on a fait des progrès dans l'isolation qui a fait qu'on a pu transporter cette glace. Mais on avait de la glace à Cuba qui venait du Connecticut.
Et on avait des glacières aussi.
Exactement, des armoires à glace. Il y avait des trains de transport réfrigérés pour la nourriture avec des compartiments de chaque côté. On mettait d'énormes blocs de glace et qui permettaient que le milieu soit froid. Mais parallèlement à ça, il y a aussi des gens qui essayaient d'inventer une façon de fabriquer du froid à la demande, froid artificiel. Et le père de toutes ces tentatives, c'est un médecin écossais qui s'appelait William Cullen et qui a démontré au XVIIIe siècle que lorsqu'une substance s'évapore, elle absorbe de la chaleur et donc elle crée du froid. Exemple, si vous léchez votre main, faites comme ça là, et que vous soufflez dessus,
tout ça, David,
c'est pas très
hein.
Bon, je me l'auto-fais et je me suis lavé les mains. Et que vous soufflez sur la main,
ça fait froid. Froid.
Il se passe quoi? C'est froid à l'endroit où vous avez léché. Oui. Pourtant, au départ, votre salive, votre soufre et votre main, elles sont exactement à la même température. Ce qui se passe, c'est que chaque molécule de salive qui s'évapore a pris un peu de chaleur à la salive qui reste sur votre main et qui devient donc toute froide. Eh bien, les frigos, ils fonctionnent exactement sur ce principe, en contrôlant l'évaporation d'une substance à l'intérieur d'un tube qui passe près des aliments et qui donc est tout froid. La première fois qu'on a réussi à faire ça commercialement, c'était au milieu des années 10, mais le premier frigo grand public qui a eu du succès, il date de 1927, il était fabriqué par General Electric et il s'appelait le GE Monitor Top. Il coûtait équivalent de presque 7000 euros aujourd'hui. Il y a encore des frigidaires à 7000 euros.
C'est ceux qui vous disent justement si les produits sont périmés, qui recommandent pour vous.
Exactement, et qui ont une double armoire comme ça. Enfin, mais disons que là, c'était le seul. Si vous vouliez un frigo, le premier prix, c'était 7000 euros. Et bien sûr, le moment où le frigo s'est généralisé, c'est au moment où tout l'électroménager s'est démocratisé, c'est-à-dire après pendant les 30 Glorieuses, pardon, juste après la guerre. Mais jusqu'aux années 50, moi, ma mère me racontait que avenue de Saint-Ouen, chez ses parents à Paris, eh bien, on livrait de la glace encore pour les commerçants, pour tous les gens qui n'avaient pas de frigidaire. Alors aujourd'hui, les frigos, ils ont plus super bonne presse quand même parce que c'est pas bon pour la planète. Hein, c'est pas bon pour la planète. La réfrigération, c'est quand même 6% de la consommation d'énergie dans le monde. Si on rajoute les 8% de l'air conditionné,
ça fait
quand même cher payer pour le froid.
On va pas s'arrêter de bouffer des Activia.
Eh ben si, on peut choisir des choses qui se périment pas. Hein. Non seulement vous aiderez à planer, et en plus, il n'y a pas de date de péremption à souvenir, à mémoriser.
Vous vous
donc, du coup, je me sentirais un petit peu mieux. Quoi.
Autrefois, y avait, on ne déplaçait pas un réfrigérateur à cause d'un gaz qui était le fréon.
Oui, c'est l'autre nom, je crois que c'est l'hydrofluoréthane. Oui, tout à fait. Je connais le nom classique. On peut les déplacer. C'est un gaz qui était mauvais pour la couche d'ozone. Et donc, on l'a banni. Et donc, maintenant, il n'y a plus de problème de couche d'ozone dans le monde. Mais il y a toujours les gaz à effet de serre. Hein, donc, quand on produit de l'énergie, en France, ça va, puisqu'on a le nucléaire. Mais, mais ailleurs, moins, en Allemagne, par exemple.
Oui. On rouvre les centrales à charbon.
Exactement.
À défaut de faire des aliens. Merci beaucoup, David Castello-Lopez.
On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.